c'est-à-dire que si les Occidentaux, là, les impérialistes, n'arrivent pas à penser ça, ce sera toujours problématique. Il faut reconnaître les faits. Vous voyez, mais le Beaufray, lui, il n'est même pas capable de reconnaître que Saint Thomas a produit une coupure. Il dit, il a vu, vous voyez, ce qui confirme bien que j'ai raison, c'est qu'il dit, il a dû se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui est bien dû se passer? Il se rend bien compte, quand même, que pour que la mathématique prenne son indépendance momentanément, parce que tout de suite, la philosophie, pas la religion, la philosophie lui a mis le grappin dessus et a arrêté l'ethnique qui s'est occupé de passer un peu de truc. Il ne fallait pas que les mathématiques soient indépendantes. Et prof, il faut attendre Hegel pour qu'il y ait de nouveau une coupure philosophique et de nouveau un boom mathématique qui a l'air de nous emmerder beaucoup. Parce que je suis bien d'accord que c'est dangereux. Ben oui, si avec les mathématiques vous faites rentrer la lettre dans le monde d'une manière si efficace, avec toute l'industrie, vous voyez bien que vous détruisez le monde, la lettre, ça fait exploser le monde. Hein. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du sida, je ne suis pas en train de vous parler même de la bombe atomique, je vous parle de cette, n'importe quelle saloperie qui peut passer sous la porte, dans un laboratoire. Bon. Donc il faut que ce soit les savants eux-mêmes qui se retirent. Il n'y a pas de commission d'éthique et de trucs comme ça ne marchera jamais. C'est comme le savoir textuel, il faut se mettre les mains dans le cambouis et puis voir que il faut se retenir. Alors c'est ça la question, comment faire pour que... Il y a des gens qui vous disent que dès que quelque chose est découvert, ça aura forcément des applications et des développements. Et bien, il y a une association, moi j'ai vu ça sur Internet, il y a une association qui existe en langue française de savants qui militent et qui ont fait une association avec des statuts, des réunions et tout ça, qui militent pour le non-développement des sciences sans éthique. Donc, je suis pas le seul à penser.
Ça s'appelle l'association. Vous retrouverez. Vous savez, vous pouvez trouver ça. Moi, comment j'ai rencontré ce truc-là? C'est parce que j'ai reçu une pub d'un peu des revues.
Bon. Alors, est-ce que ça vous amuse d'apprendre à compter les torts, les trous et la décomposition des torts? Ensuite, on peut faire la même chose avec le plan projectif. Les plans projectifs, ils ont aussi un genre. C'est pas la bande de logique, c'est un plan projectif trouvé. Donc déjà, il a été pas coupé.
J'ai une question.
Oui.
Quand on coupe donc le triple tort, qui théoriquement est 2 en 4.
Il faut 4 coupures pour être sûr de déconnecter quelque chose.
Voilà. Et bien, si vous le coupez avec un nœud de trèfle, vous en faites 2 bouts.
Non, le triple tort, non, c'est le simple tort que je coupe avec un trèfle. Pour en faire qu'un seul bout.
Et là, vous coupez un triple tort avec des trèfles et vous en faites 2 morceaux.
Ah non, pas du tout. Si vous mettez un trèfle là-dessus, vous n'avez pas 2 morceaux. C'est, il faut les 4, il faut les 3.
La surface théorique présente donc 2 composants.
Oui, mais c'est parce que là, vous avez les trois coupures et plus une qui est le trèfle. C'est ça que vous n'avez pas capté. Il y a 4 coupures là.
Ah, il y a les 4.
Eh oui. C'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. C'est pour ça que je suis en train de ramer comme un fou aujourd'hui. Parce que j'ai bien vu que vous n'aviez pas pigé ça.
Ah oui.
Je suis en train d'essayer de trouver un moyen pour que vous nous en aperceviez.
Je suis
en
con, oui, c'est super.
Ben non, mais moi je peux pas. Et ça sert à rien que je vous le dise. La seule manière que vous pigiez quelque chose, c'est que vous en rendiez compte vous-même. Regardez, quand je coupe ici, je vous ai dit, pour obtenir 2 morceaux, je rajoute une 4e coupure que je prends soin de faire bien symétrique par rapport à mes 3 coupures déjà présentes. Vous voyez? Donc, comme j'ai un certain goût de la symétrie, je vous ai parlé de Jacobson à ce propos. Vous voyez? Je fais une 4e coupure qui tient compte de la présence des 3 précédentes. Et ça, c'est le neutre. Donc maintenant, la question... Alors, regardez, sur la surface d'un pan, le neutre-trèfle qui va venir d'une coupure qui est une coupure, un simple rond. Une coupure comme dans la bande de Möbius. Hein. Si je mets cette coupure, ma surface d'un pan, mon nœud borromien, il devient bilatère, comme ici. Je passe du unilatère au bilatère. Donc ici, par exemple, j'ai de la couleur verte là maintenant. J'ai de la couleur verte ici, vous voyez. J'ai mis un trait noir hein, comme coupure. Pas bleu, parce que j'ai déjà utilisé le bleu pour un des ronds. Bon. ici je vais avoir du vert, comme ça, périphérique, hein, et là au milieu j'ai vert, tout est vert, hein, dans la partie petit a, c'est la partie non nœud du bourrelet. Bon. Et là, voilà, et là il y a du rouge. Voilà. Là j'ai orienté. Alors qu'est-ce que ça donne dans mon triple tore quand je fais ça? Si j'ajoute la coupure du nœud borroméen dans sa surface d'empan, faites attention, la différence entre la surface d'empan et le tore, c'est que ici, ça c'est une surface, vous voyez, c'est une surface comme ça, hein, si je monte ça en coupe, et par exemple là, voyez-vous, ici vous avez un trait bleu comme ça, et un trait vert ici. Hein, si je coupe ici, vous avez quoi? Vous avez le trait noir au milieu. D'accord? Et là, grâce à ce trait noir, j'ai remplacé la couleur bleue par deux couleurs qui se mélangent plus. La coupure réoriente la surface. Ah non, c'est pas bleu, ça c'est vert. Vous voyez? C'est vert. Bon, vous voyez que ça, c'est une surface. Quand vous faites le tore, regardez, pourquoi je vous fais une coupe ici? Je fais une coupe ici, hein. Je fais une coupe là, regardez, pof. Entre ce point-là et ce point-là. Je coupe cette surface, j'ai un morceau d'étoffe comme ça, un ruban qui est coupé. Bon. Mais ici, l'étoffe qui est plate, ici, qui est localement plate, eh bien ici, elle est dédoublée. C'est ce que Lacan appelle la feinte. Vous voyez, elle est comme ça. C'est un tore, c'est plus une surface simple comme ça, c'est un tore. D'accord? Et vous avez ici des bords en perspective. Et le trajet bleu, voyez-vous, il passe au-dessus ou en dessous, peu importe. Et puis le trajet vert, il peut être là, par exemple. Et puis il passe sur le côté qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, quand vous passez de ça à ça, qu'est-ce que c'est la feinte? C'est de dédoubler. Pour obtenir la surface d'empan à partir du tore, il faut le pincer. Hein, vous remarquez dans l'étourdi, il pince le tore pour obtenir la bande de Mobius. Il le pince. Il appelle la bande de Mobius feinte. C'est quoi la bande de Mobius feinte? C'est quand c'est ceci qui est aplati. Mais c'est double, c'est pas ça, c'est ça. Même quand vous le pincez, ça, si vous l'aplatissez au fer à repasser, ça ne sera jamais ça, ça sera toujours quelque chose qui sera double. Vous voyez? C'est ce qu'il appelle la feinte. Donc, la bande de Mobius feinte, c'est un tore simple, c'est un tore comme ça, une bouée, qui est pincée le long du bord, là, en 8 intérieur, qui est le 8 intérieur, comme ça, sur le tore. Le 8 intérieur sur le tore, si je le fais bord de ma bande de Mobius feinte, et bien la bande de Mobius feinte, je vais pouvoir l'aplatir, la repasser. Mais ce sera toujours un tore. Et c'est pour ça qu'ensuite je peux couper. Et je vais obtenir quoi? Quand je vais couper le long de toutes ces lignes, hein, mais il faut que ici j'ajoute la coupure, vous voyez, la coupure noire. Donc comment? La coupure noire, qu'est-ce qu'elle devient? Regardez, la coupure noire, dans ce modèle-là, elle est un simple trait qui donne des deux côtés. Ici, elle se dédouble, la coupure noire. Vous voyez, ici, elle se dédouble. Est-ce que c'est assez grand, mon dessin, ici? Vous voulez que je le fasse en plus grand? Regardez, ici, la coupure noire, elle se dédouble. Au lieu d'être un cercle, elle est un 8 intérieur. Elle est ici, même, on va mettre un trèfle. Vous voyez, le trèfle, c'est quoi? Vous pouvez le représenter comme un cercle, le trèfle. Regardez, si vous le faites comme ça... Vous voyez là, hop, ça passe en dessous, ici au-dessus, voilà. Vous voyez, si vous le resserrez comme ça, votre trèfle. Voilà, hop. Vous voyez, les deux bords, vous les approchez tout partout, vous approchez les deux bords de votre trèfle, là. Vous allez finir par faire quoi? Par le transformer en un cercle. Donc ici c'est un cercle, et ici cette coupure que je fais ici dans la surface d'empan, cette coupure qui fait deux faces, elle devient un trèfle dans celle-là. Et donc ici c'est un trèfle qu'il faut que j'introduise. Alors ce trèfle, vous voyez, il vient ici dans ce croisement-là, il suit le truc, le fil qui passe dessus ici. Alors, je vais prendre un autre crayon noir. Je peux le dessiner, le trèfle, ici. Le trèfle, il est là. Et là, il passe en pointillé en dessous, puis il va ressortir là. Et vous voyez qu'il va être un trèfle avec trois croisements parce qu'il va pouvoir repasser par ici. Et ça, c'est vrai à chaque hauteur. Alors, où est-ce qu'elle est dans la planche, le dessin de sable que je viens de faire? Ben, le dessin de sable, regardez, c'est très, très clair ce que j'ai fait quand même. Ça, c'est bleu parce qu'il y a trois coupures, mes trois coupures de tout à l'heure qui ne découpent pas mon tore en deux morceaux. Donc, toute la surface reste connexe et bleue. Quand j'introduis le trèfle, regardez, pof, il y a deux couleurs, il y a le vert et le rouge. J'ai coupé en deux. Donc j'ai orienté ma surface d'entente, mais ça c'est pas la surface d'entente, c'est la surface d'entente dédoublée, c'est gonflé comme avec je souffle dedans. Ça c'est une baudruche. Et là vous voyez que la simple coupure à la surface d'entente devient un trèfle. Et là vous avez quatre coupures quand vous avez ces deux couleurs. Là c'est bleu parce qu'il n'y a qu'une. Il n'y a qu'une partie connexe. Et là, vous avez deux parties connexes. Mais non connexes entre elles. Et vous voyez qu'elles sont non connexes. Si vous coupez effectivement le long des quatre coupures, vous avez deux moitiés, une rouge et une verte. Dont le dos est d'ailleurs oriental, parce que le dos du rouge, je l'ai mis en vert, et le dos du vert, je l'ai mis en rouge. Bon, vous voyez, mais ça, pour les séparer comme ça, pour que vous distinguiez bien les deux faces. Donc c'est ces deux surfaces-là. Et avec mon ordinateur, c'est pas compliqué. J'ai dessiné ça. Ça, j'ai doublé tous les traits, j'ai fait les coupures. J'ai fait apparaître ce qui apparaît dans les coupures pour faire un dessin un peu réaliste. Et ensuite, j'ai recopié ça deux fois. Et puis, j'ai effacé une des surfaces pour avoir ça. Puis, j'ai effacé l'autre pour avoir ça. Donc là, grâce au trèfle, vous voyez, ajouté, grâce au trèfle qui est ajouté à cette. Ici, je montre où est le trèfle. Là, il y a les quatre coupures ici. Et je montre que la bande de Mobius, qui va être la raison de l'involution signifiante, elle est aussi dans ce. Vous voyez, ce n'est pas seulement dans le dessin que je vous avais envoyé précédemment. À chaque fois, je vous montre la raison de l'involution signifiante. Comment se fait-il? La raison de l'involution signifiante, c'est comment se fait-il ceci et ça, je vais pouvoir les refermer en bande de Mobius. Pourquoi? Grâce à cette bande de Mobius triple, qui est la même que dans le trèfle. Vous voyez? Elle est à l'intérieur du tore, et celle-là, elle est aussi à l'intérieur du triple tore. Parce que, dans un triple tore, vous avez un tore périphérique, et puis vous avez deux tubes qui sont mis au milieu. Vous voyez les deux anses que j'ai ajoutées là. Le triple tore, c'est un tore plus deux anses. Enfin, il faut apprendre à compter là-dedans. Et comme c'est, et moi-même, vous voyez, c'est un peu surprenant. Donc, l'intérêt des études intrinsèques, qui ne sont pas extrinsèques, c'est là, il n'y a plus de nœuds, et on peut réfléchir un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, on se crée un nouveau genre de problème, mais un problème beaucoup plus simple. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle le contrôle en analyse, vous voyez. Pour contrôler vos calculs compliqués, ça, c'est la théorie du contrôle de l'intrinsèque. Et donc, il ne s'agit pas d'une supervision, comme on dit en la super. Les mecs en espagnol, à Buenos Aires, ils appellent ça supervision, les contrôles. Supervision, contrôle, tout ça, c'est très mauvais, c'est pas bien parlé. Il s'agit d'une infravision. Le contrôleur, il n'a rien à faire, c'est le type qui parle. Quand il commence à s'expliquer, il va simplifier son truc et puis il va s'apercevoir d'un truc tout con et le contrôle sera réussi. C'est ça le contrôle. Le contrôle, c'est aller parler à quelqu'un d'un truc qui vous tracasse. C'est pourquoi? C'est parce que vous prenez les pieds dans une complication beaucoup plus grande que celle qui est intrinsèque. C'est pas une simplification, c'est un mouvement qui existe, qui est narcissique, qui est très difficile à pratiquer. C'est le processus. C'est le processus de la lecture. C'est le lire. Lire, c'est intrinsèque, extrinsèque. Le narcissisme, c'est quoi? J'ai un objet, j'ai une image, j'ai un corps narcissique et j'ai un corps dans lequel je suis intrinsèque. Et je peux. J'ai l'impression de pouvoir faire marcher mon corps extrinsèque en bougeant le corps intrinsèque. C'est ce que fait l'enfant quand il jubile, quand il fait un jump. Il n'est pas encore capable de contrôler l'image narcissique. Mais quand il est dans les bras d'un parent et qu'il est devant le miroir, il bouge le bras et le bras bouge dans le miroir. Alors il se retourne vers l'adulte et on dit « Ah, regarde, c'est un jeune, vous voyez, c'est un truc complètement qui est lié à l'idéal et à la compétition. » c'est-à-dire à la connerie, c'est comme ça qu'on devient ensuite compétitif, mais enfin, c'est très con. Parce qu'on veut être le. C'est une tricherie, on triche, le type n'est pas encore capable de contrôler. C'est comme ça que tout le capitalisme s'effondre, parce qu'ils ne sont pas encore capables, ils ne savent pas encore. Les pauvres mecs qui font des algorithmes de mathématiques pour la finance, ils sont des bricoleurs, ils ne sont pas des savants. Et les mecs qui les emploient, alors là, on dit polytechnicien, tout ça, mais c'est pour aller créer tout, ça peut être un mec qui s'est fait pâler avec des milliards de dettes, voilà. La banque, je ne sais pas quoi, qui a un procès en ce moment, qui est en guerre, le polytechnicien qui a été arrêté dans son vol. Non, mais écoutez, arrêtez. Ce sont des escrocs, ce sont des types qui n'ont aucune éthique. Et les boules en or, hein, les couilles en or, vraiment, c'est une honte. Les mathématiques, vous voyez, moi je suis fier, c'est que vous voyez, on n'est pas très nombreux ici, ça c'est ma fierté. Regardez, je fais des mathématiques, ça, vous savez que j'ai fait ça, je l'ai déposé au brevet industriel. Et les militaires, vous savez comment ça se passe au brevet, quand on dépose un brevet.
Un rapport.
Non mais attendez, on n'a pas le droit de le divulguer, on ne peut déposer et demander de faire certifier un brevet que s'il n'est pas divulgué. Pourquoi ? Parce que les militaires veulent ausculter votre projet d'abord, et quand ils ont vu ce que si ça les intéresse ou pas, ils vous donnent l'autorisation de publier ou non. Et bien moi, ça ne les a pas intéressés. Les militaires, ça ne les a pas intéressés. Donc je peux publier. Vous imaginez qu'il y a une commission de l'armée française qui s'est penché là-dessus. C'est génial. Je leur donne un peu du boulot marrant. Quoi. Et ils ont dit, on ne peut rien faire avec ça, on ne va pas pouvoir tuer des gens, les manipuler. Donc, rien à faire. Bon. Vous voyez ? Alors qu'en fin de compte, moi, ils ne devraient pas me donner de brevet parce que c'est très dangereux. Moi, si j'ai un brevet, je vais pouvoir demander 5 centimes à chaque séance d'analyse. Que les analystes du monde entier me versent 5 centimes, puisque c'est ce qu'ils font sans le savoir. Donc, c'est comme les CD, vous voyez, je peux faire fortune. Pour le devenir très riche. Je vous promets qu'ils vont faire, des autruches, ils vont enfoncer la tête dans le sable en disant, mais non, nous, on ne fait pas ça. Ben, ça, c'est fait pour rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'une séance d'analyse, par exemple. Vous voyez, c'est pulsation, involution signifiante. C'est, ça se sépare et ça se réunit. Ça, c'est l'écriture de ce que font tous ces gens qui ne le font pas, d'ailleurs, parce que ni les analysants ni les analystes le font, ils bavardent. Ils se racontent des trucs, des histoires de famille, les enfants, la migraine, enfin, je vais parler maladies psychosomatiques, enfin, tout ce qu'on peut raconter. Ils n'ont pas du tout l'idée de prendre un crayon, un papier, puis de voir que, pof, ça fait leur péter au nez, et que ça fait pas mal, hein. Alors qu'est-ce que c'est, pour finir ce qu'on nous sommes en train de faire, je vous propose une lecture. Lisez dans vous connaissez ce petit livre de Cogel qui s'appelle L'idée du déterminisme. Il est actuellement introuvable. Si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, vous allez avoir des mains. On peut le trouver en bibliothèque. Il y a un mec qui en vend un sur chapitre.com, 205 euros, ce petit livre, parce qu'il habite New York, le mec. Alors lâchez pas, on fera des copies si vous voulez. Mais moi je l'avais et ma fille me l'avait piqué, je ne le trouvais plus. Alors je commençais à manger le tapis. Et puis il y a deux jours, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas toi, parce que je ne disais jamais à elle s'intéresser à l'idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne. C'est une thèse que en 32, Kotev a écrit, une thèse scientifique. Hein. Avant de s'attaquer, il s'était déjà attaqué à Hegel. Donc c'est une thèse, et il y a son biographe là, qui fait une préface, qui s'appelle Dominique Auffray. Et là, je vous conseille un paragraphe de Dominique Auffray et une note de Dominique Auffray qui commente Hegel. D'abord, quand vous voyez ce qu'il raconte sur la manière dont Kojève a été reçu en France, et qu'il passe, vous savez, tout le monde raconte qu'il était un agent du KGB et tout ça. Parce que c'est comme Lacan, vous voyez. Kojève et Lacan ne sont pas reçus ni recevables par le public, et même par le public éclairé, savant. Hein. On en parle, mais on a honte parce qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que ça. Et là, il explique très très bien dans le cas Kojève. Moi, je pense que Lacan, il est devenu Lacan en écoutant Kojève, et il a ensuite lu tout ça. Et là, dans cette petite préface, il explique, il donne un début de raison du fait pourquoi Cogène n'est pas reçu. Il a un prestige énorme, mais blackout. Donc c'est comme Lacan, aujourd'hui, vous voyez, donc Lacan, formidable. Vous voyez, Michel Field, il faisait ça à la télé, il disait, quand il avait un interlocuteur un peu, qui était un peu fanfaron, il lui glissait Lacan sous les pattes pour le faire glisser, il lui disait, à un moment donné, à la conversation, il disait, et Lacan, vous savez, il n'a pas lancé le nom, et Lacan, à minuit, hein, la télévision à minuit, vous savez, les débats. Et Lacan, alors l'autre, il disait, ah, Lacan, j'ai une infection. Et puis, pour déstabiliser le mec. Bon, c'est on ne peut pas en parler. Et donc, Rapro non plus. Vous voyez. Parce que moi, j'ai la fierté d'être, de faire comme Cogène et Lacan. Je n'ai pas fait exprès, mais ils m'ont, j'ai attrapé le virus. Et donc, la question, c'est que justement, c'est exactement ce qu'il dit. Prestige est là, mais moi, on veut faire de moi un expert. On m'écrit ou on me téléphone uniquement pour me demander des expertises. Est-ce que je pourrais faire que la bande de. Lacan parle du prolongement du symptôme de Joy sur sa fille. Est-ce que je peux faire une théorie de l'autisme? Vous voyez, moi je fais une théorie de l'autisme avec la droite infinie. Hein, le trou réel, le repérant. Là, quelqu'un me demande, est-ce que je peux faire une théorie de l'autisme de la fille de Joyce? L'autisme, c'est le prolongement du nœud de Joyce. Alors, comme le nœud borroméen généralisé que tu as fait est une mise en continuité dans une chaîne à 4, hein, alors, donc voilà, ce serait le prolongement de la chaîne A4 du symptôme des membres de peau. Et la chaîne A4, il s'en sert pour écrire le symptôme de la suppléance freudienne. Hein. Et Torquemada Joyce, c'est pas du tout une chaîne A4 comme celle du roman de Freud, qui est associée à Freud. C'est une où il y a un enlacement. Il y a un rond qui se barre, donc il faut en mettre un autre ego de Joyce qui bloque. Bon, donc ça veut dire que ce qu'il veut faire, le type qui m'écrit comme ça, qui me demande une expertise, moi je ne vais pas répondre, hein, parce que je ne veux pas, je ne suis pas expert, je suis malade, mais je vous en parle quand même. Ce serait bien de faire ce qu'il fait s'il voulait démontrer que Anna Freud était autiste. Ben oui, parce que c'est le prolongement du symptôme du père qu'il essaye de décrire comme ça. Alors le père Freud, il a une chaîne A4, et puis il y a une mise en continuité dans la chaîne A4 de Freud, et ça donne le symptôme de la fille. Mais c'est la fille de Freud, c'est pas Lucia, hein, c'est pas la fille de Joy, vous savez. La fille de Freud, elle s'appelait Anna. Bon, enfin, on rigole, parce que les mecs, ils ont beaucoup d'imagination, mais ils n'ont pas d'effectivité, vous voyez. Ils n'ont pas un lieu où ils peuvent vérifier eux-mêmes la tenue de ce qu'ils avancent. Alors c'est emmerdant. Je dis pas qu'il faut, que ce soit tout exact, hein. Mais c'est une question de tenue quand même. Il y a des choses, on peut pas faire le fanfaron dans ce domaine-là parce que tout le monde s'en aperçoit que c'est des prétentions. Tout le monde s'en aperçoit. Et du coup, on peut parler de vous à la radio ou à la télé, mais ça change rien. Parce que quand c'est pas prétentieux et que vous voyez, ça fait quelque chose qui est quand même effectif, ça fait vraiment suer tout le monde, alors on n'en parle pas parce que. Et c'est ce qu'il explique très très bien à De Cogève. Il a un prestige énorme, mais. On ne sait pas. Alors du coup, voilà. Ensuite, on invente qu'il était un agent du KGB parce qu'il est venu de Russie avec le docteur, avec les bolcheviks. Hein. Vous connaissez l'histoire de Cogève. Sa mère lui a donné 3 diamants. Lui a dit, écoute, ou tu restes ici et dans 3 ans t'es mort, ou tu t'en vas. Voilà 3 diamants. Et il a vécu comme ça avec ces 3 diamants pendant jusqu'à ce que l'Europe l'engage pour faire la taxation. C'est pour ça qu'il mangeait que des haricots. À Montrouge, il était installé à Montrouge après Marseille. Il est allé faire des études chez Heidegger, non, chez Husserl, il a rencontré Heidegger, ensuite il est allé à Marseille, il a écrit des très bonnes choses, le principe d'autorité, par exemple. Et puis, pof, ensuite il est venu à Montrouge et il a écrit toute sa vie, il a lu et écrit à Montrouge. Et dans la correspondance avec Léo Strauss, vous voyez, Léo Strauss, il est à Cambridge, il a fui aussi le nazisme, et donc il était juif en Allemagne, Léo Strauss, il est allé à Cambridge. Et Léo Strauss à Cambridge, il mange des lentilles, et Cogève à Paris, à Montrouge, il mange des haricots. Ils n'ont pas un rond, ils ont froid l'hiver, ils n'ont pas un rond, mais ils bossent. Et c'est des gens qui bossent bien. Et vous voyez, Léo Strauss, il est sorti de marasme seulement quand les Canadiens l'ont fait venir à Toronto. Il était directement de Cambridge à Toronto. Pourquoi de Cambridge? Parce qu'il y avait le fonds Hobbes, et il voulait lire Hobbes. Et il a passé des 15 ans à l'Europe, dans les années 30, et au moment de la montée du nazisme, les années 30 et la guerre, il était en Angleterre. Ça, c'est Léo Strauss. Et lisez cette correspondance entre les Rochefoucauld et Pogel, c'est délicieux. Vous allez voir deux mecs qui parlent des gens à Paris. Vous avez des nouvelles de André Veil, vous avez des nouvelles de Pogel. À Coiré, ah oui, un moment dans une lettre, Pogel dit à les Rochefoucauld, oui, le vieux Coiré, il commence à sucrer les fraises. C'est pas encore rien à faire. Hein, mais... bon. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des bonnes lectures. Vous savez, fréquenter Pogel, bon. C'est pas un truc pour faire de la pub, mais c'est même le contraire. Vraiment, c'est bon. Et alors là, il y a un passage où il y a un passage absolument parfait du biographe de Pogel, qui à un moment donné explique un peu Pogel et explique le principe de dualité. Ça donne les notes 13. Ça donne, on va finir là-dessus, ça donne la note numéro 13 dans la première partie qui est l'introduction par le biographe de Pogel. Hein. Alors la note, attendez que je retrouve l'endroit où il fait cette note, c'est toujours plus difficile. Ça c'est la note, attendez. Ah, parce qu'il faut trouver le départ de la petite note. Mais la note, elle est excellente. Vous allez voir ce qu'il parle d'une manière très mauvaise de ce que nous faisons là. Ça explique pourquoi il faut faire ça avec la croix. Parce qu'il essaye de dire. Qu'est-ce que c'est que le phonème? Qu'est-ce que c'est que la différence? Mais il n'y arrive pas. Il ne le dit pas bien. Voilà, là c'est la note 12, donc la note 13 elle est juste après. Voilà. Donc, écoutez bien la séquence. La physique quantique est a en effet eu pour conséquence d'introduire au cœur de la notion du réel, censée être seulement physique ici, parce que là on va faire de la physique, la dualité irréductible, note 13, dualité irréductible, entre le système observé et le système observant. Vous voyez, structure de langage, hein. Narcissisme, l'objet observé, le commentaire. Vous hein, voyez. Bon, c'est la structure du langage. Hein, il est question de la structure. Ah, lui, il s'en rend pas compte, mais c'est la structure du langage. La dualité irréductible, il appelle ça. Alors, il donne une explication dans la note 13. Et moi, je vous dis qu'il faut réécrire ça. Ça va pas. Et que tout ça, c'est fait pour réécrire ça bien. Kogel entend généralement par dualité. Bon, il explique le mot dualité chez Kogel. Non, une opposition extérieure entre des termes prédonnés. Notez bien ça. C'est pas une opposition extérieure. Mais vous allez voir dans quel genre d'emmerdement il va rentrer à cause de cette notion de opposition extérieure. Donc on est en plein dans intrinsèque-extrinsèque, vous voyez, intérieur-extérieur, mais c'est plutôt intrinsèque-extrinsèque à propos du réel, la position du sujet. C'est la structure du langage. Le sujet, il est divisé là-dedans. C'est bien là. La dualité. Mais il appelle ça une opposition extérieure entre les termes prédonnés, étrangers entre eux et incompatibles. Mais une opposition essentielle et nécessaire entre des contraires qui s'impliquent mutuellement dans leur existence même. Alors déjà ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas facile à comprendre que ces contraires hein, qui sont extérieurs, bon, ils s'impliquent mutuellement dans leur existence même. C'est une première chose là qui... Il faudrait préciser tout ça. Il continue. L'opposition ici implique une relation qui est elle-même condition de l'opposition. C'est pour ça qu'il dit hein, dualité, comment il l'a appelé, dualité, il l'a introduit avec le mot de dualité irréductible. C'est le côté irréductible qui est problématique. L'opposition ici implique une relation. Hein, c'est des objets, des éléments qui s'opposent mais qui sont extérieurs. Une opposition extérieure. Qui, alors, donc cette relation, l'opposition ici implique une relation qui est elle-même condition de l'opposition, ce qui explique son caractère irréductible. Voilà, c'est la relation qui explique le caractère irréductible. Moi je dis que c'est réductible, c'est une dualité justement réductible et irréductible. Et c'est ça, c'est dans cette pulsation-là qu'on est en train d'essayer d'écrire qu'est-ce qui se passe entre le tort et la bande de Mobius, vous voyez. Comment on peut découper avec un 8 intérieur ou un nœud trèfle déjà une surface bilatère qui devient unilatère. Bon, attendez, je finis juste de lire la note. Si la dualité entendue en ce sens était réductible par identification des contraires, alors il imagine que c'est par identification des contraires. Ça c'est obligatoire. En un unique terme non dual à lui-même, alors ça c'est du baratin, non dual, c'est très joli. À lui-même, bon, ça fait non dual à lui-même, bon. ou par négation de l'un des contraires. Donc il oppose identification des contraires ou négation de l'un des contraires. effectivement, c'est pas pareil. C'est pas... Il s'agirait, à contrario, d'une opposition extérieure inessentielle à la déterminée, à la déterminité des contraires. Et la contingence du rapport l'emporterait sur sa nécessité. Alors je vous lis vite la suite, vous le direz, la catégorie de l'opposition irréductible deviendra la notion fondamentale. Je crois que je vais le scanner, puis je vais vous l'envoyer. Pour penser la réalité objective dans l'énergologie du système hegelien mis à jour par Kohler. Voilà. C'est vachement bien. Mais moi je dis que tout ça, c'est très très bien, ça vous indique que cette histoire, que ce que fait Lacan est une révolution signifiante. C'est pas du tout négligeable, ni pour les gens qui font de la philosophie, et en plus quand ils lisent Kohler, la science politique, et aussi pour la psychanalyse. Alors j'ai un autre bouquin d'un jeune qui a écrit un livre. Alors ça se trouve aussi dans Jacobson, vachement bien expliqué. Donc je vais vous envoyer la note de Auffray. Et là il y a un jeune garçon de Tours là, qui s'appelle Gérard Morales, qui est, paraît-il, docteur en philosophie et psychanalyste, en lieu, salut. Et par contre, il dit bien, il dit des choses très bien, il a lu Derrida, il est, apparemment il suit les cours de Houry, c'est très très bien, mais il ne veut absolument pas se servir. Alors pour la topologie, c'est juste se servir de Lotman, il est allé chercher Lotman, vous voyez, il ne veut pas lire ce que je raconte, tout ça, ça ne l'intéresse pas, alors que pourtant il est très intéressé par ça. Il écrit des choses qui sont. Il a tout faux. Il essaye de nous faire une théorie de la psychose paranoïaque qui serait un développement de l'autisme. Et vous remarquerez que moi, ce que je propose de lire dans Lacan, je ne vais pas inventer ça tout seul, hein, c'est que justement, le trauma, c'est l'urverbrand, c'est l'entrée dans la structure et c'est le lieu où se décide l'autisme ou non. Et que c'est en sortant, en passant de cet autisme à l'étape suivante qui est l'incorporation, là il y a les incorporels, voilà, il aurait besoin de trouver les incorporels, ce gars-là. Eh bien, les incorporels, ça marche comment? Cette structure, les incorporels. La manière dont le langage tient au corps, vous voyez, c'est dans ces manipulations-là que vous arriverez à écrire quelque chose qui vous engage dans cette topologie qui fait que l'on pourrait écrire cette relation de dualité irréductible. Qui est à la fois irréductible et réductible. C'est-à-dire que, je vais vous dire ça comme ça, si vous voulez, c'est que ça se projette, ça se met à plat et ça se relève. Vous voyez bien qu'une projection, hein. Et ce que je suis en train de vous dire, regardez, c'est que quand vous faites une projection, si vous avez une ligne comme ça, deux points sur la ligne, quand vous projetez la ligne en un point ici sur un axe, hein, les deux points, ils se projettent au même endroit. D'accord ? Donc ce que j'appelle projection, là vous avez bien identification des contraires, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc c'est ces histoires de pliage, dépliage, de feinte. Lacan, il utilise tout ce vocabulaire, pourquoi? Pour construire cette structure. Hein, cette structure qui est la structure en question, c'est S1 flèche S2. Et ici, ça fait que une S1 représente une lecture pour... S1 représente une lecture pour un autre signifiant. C'est une question. Lire, c'est toujours écrire quelque chose de nouveau, réécrire quelque chose de nouveau. C'est ce que je me tue à vous dire. On ne lit que ce qu'on veut. C'est celui qui lit, c'est celui qui entend, qui fait ce qu'il veut avec ce qu'il entend. C'est pour ça que dans la psychanalyse, le mieux, c'est quand l'analyste ne moufte pas. Ben oui, au moins, il ne met pas son costard. Pas son postal. Mais seulement, moi je prétends que l'analyste il peut aussi parler. Et que le problème c'est que de quoi il parle, voilà, c'est là la question. De quoi parlons-nous? Ben, on pourrait parler d'étoffe, de choses comme ça. Voilà. Oui.
Est-ce que cette notion de dualité là qui se lève, ce garçon, a quelque chose à voir avec l'adjonction dans les catégories?
Ah, ça il faut demander à Guitard, c'est lui l'expert. Les catégories.
Mais, c'est pas de physique, il parle pas de dualité en propre.
Non. Là, il est en train de parler de la dualité irréductible. Je dis, il est en train de parler de la structure même.
La dualité,
oui, parce que là, au moment où il introduit cette dualité, voyez-vous, il est en train de parler des effets de qui intéressent Kohler dans qu'est-ce que la physique moderne a modifié dans le logos occidental.
Physique quantique.
Et Kogel signale que c'est pas Einstein qui est l'élément de coupure important là, que c'est Planck. Hein? Ensuite, vous pouvez lire le Kogel, il est très clair. Et si vous connaissez un peu de physique, c'est assez bien, c'est assez passionnant. Bon, il se pose la question, comment est-ce que ça a modifié Laplace? Laplace qui parlait, c'est le déterminisme. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la déterminisme? Et moi, je pense qu'il y a une crise de civilisation, et une crise politique, et une crise économique, tout ce que vous voulez, parce qu'on est justement confronté, on ne sait pas quoi faire de l'indéterminisme. Tout le monde veut absolument se raccrocher à un déterminisme et à une exactitude, à un Dieu, je ne sais pas quoi. C'est cet indéterminisme que vous trouvez aussi en mathématiques, et je vous raconterai, j'ai démontré le théorème de Lacan. Et maintenant, je suis en train d'étudier la démonstration par Lacan du fait que le théorème de Cantor n'est pas démontrable.
Ça, c'est un théorème négatif, le théorème de Lacan.
Non, c'est un théorème positif.
Quelque chose est impossible si j'ai un nombre pair.
Eh oui, mais on comprend pourquoi. Eh, c'est important de savoir pourquoi c'est impossible.
D'accord.
C'est différent, c'est pas un décret. C'est que là, on peut constater sous ses yeux, on peut toucher, si vous voulez, on peut écrire tout au moins. Pourquoi c'est impossible quand c'est pair, et pourquoi c'est possible quand c'est impair?
Non, c'est pas possible, c'est contingent.
Oui, mais c'est impossible.
C'est pas forcément possible.
C'est pas forcément possible, c'est contingent quand c'est impair.
Voilà. Donc il faut attendre que ça se passe.
Oui, mais écoutez, moi, tous les cas impairs que j'ai étudiés, j'ai trouvé assez vite les cas qui relèvent de Lacan. Allez, on s'arrête là. On va passer au prochain. Il faut que j'avance jusqu'à la fin des pages que je vous ai envoyées. Mais ça a éclairé un peu les trucs.